Chapitre 8, verset 22, qui va nous servir d'introduction pour le message. Matthieu 8, 22. Enfin, on va même lire un petit peu plus haut, verset 19. Un scribe, Matthieu 8, 19, un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. » Amen. Suivre Jésus. Déjà, dans le terme français, suivre Jésus, c'est... J'ai regardé dans le Littré, et j'ai trouvé cette définition d'une simplicité incroyable, mais vous allez voir pourquoi. La première fois que c'est employé, une des premières fois au Xe siècle, c'est employé « aller derrière quelqu'un ou quelque chose qui se déplace ». Et c'est vrai qu'on ne suit jamais, on suit toujours quelque chose qui se déplace. On est d'accord ? Si vous suivez une voiture, un vélo, une personne, c'est parce que cette personne se déplace. Et quand Jésus dit « vous allez me suivre », il faut penser à cette idée, penser à cette réflexion que suivre Jésus, c'est suivre Jésus qui se déplace. Et le Seigneur est celui qui va toujours de l'avant. Il est celui qui ne reste jamais au même endroit, qui ne cherche pas la sécurité ici-bas. Ici-bas, la Bible nous dit que nous n'avons pas de demeure permanente, que nous sommes des SDF, sans domicile fixe, que nous sommes comme Abraham, nous sommes comme le peuple hébreu, nous sommes en voyage, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Ça veut dire que Jésus, lorsque nous décidons de le suivre, nous allons marcher derrière lui et il va nous mener dans des endroits nouveaux, il va aller de l'avant, il ne va pas arrêter, stagner. Et il y a trop parfois, peut-être ça vous est arrivé quelquefois, on a juste envie de poser ses bagages, rester tranquille, avoir un siège attitré et puis en fin de compte avoir une vie chrétienne un peu pépère. Mais si vous décidez de suivre Jésus de plus près et de marcher derrière lui, j'aimerais vous dire que vous allez voir du pays. Ça ne veut pas dire que vous allez aller en Afrique ou à l'autre bout du monde, mais vous allez voir que le Seigneur est quelqu'un qui se déplace tout le temps. D'ailleurs, vous avez remarqué quand il était sur la terre des hommes, vous avez remarqué, si vous lisez les évangiles, que Jésus restait jamais à la même place. Hein. D'accord ? Certains, ils avaient la chair de Moïse, les Juifs, ils allaient au temple, mais Jésus, lui, il était un jour là, il disait, ben, passons de l'autre bord, il faut que j'aille en Samarie. Quand vous regardez tous les voyages que Jésus a fait, vous vous rendez compte qu'il est allé sillonner les villages, les villes, il est resté rarement longtemps au même endroit. Quand il a commencé son ministère, et si vous voyez l'apôtre Paul après lui, vous vous rendez compte aussi que des voyages missionnaires, il en a fait. Alors je vais vous dire une chose, si vous décidez de suivre Jésus, vous allez voir du pays. Amen. En grec, le verbe grec ici, c'est aller suivre quelqu'un avec la racine, c'est le mot route. Sur ma route, non, bref. Sur une route. Et nous allons vivre en suivant Jésus sur une route. Et puis ce mot aussi en grec, qui est peu commun, je vais vous dire, je vais reprendre ça aussi pour vous. Je l'ai noté quelque part. Ce verbe aussi est employé lorsqu'on dit se joindre comme disciple. Et c'est l'idée de faire partie de la troupe d'un maître. C'est aller derrière un maître et faire partie d'une troupe. Et une troupe au combat, une troupe qui avance. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, et du temps des anciens, pardon, des Grecs, le maître était celui qui se déplaçait, qui souvent même enseignait dans les places publiques. Et on voyait un maître et on voyait toujours les disciples après lui. Et ce que le Seigneur décide, c'est de dire, si tu veux me suivre, tu seras mon disciple. Et c'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Pas simplement qu'il dise, j'ai Jésus dans mon cœur, j'ai trouvé une église, mais suivre Jésus, c'est passionnant, c'est extraordinaire, c'est faire de nouvelles choses, c'est aller dans de nouvelles directions, c'est en tout cas jamais faire ce que peut-être les autres nous attendent de nous. Parfois, c'est aller à l'encontre de ce que les gens attendent de nous. Un deuxième texte encore, dans Matthieu chapitre 9, verset 9. Matthieu 9, 9.
De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Et il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Ici, Matthieu, il était assis au niveau des péages, c'était un homme qui gagnait bien sa vie, qui avait une activité, qui était quelqu'un qui n'était pas très aimé par les habitants parce qu'il était, prenait les impôts pour l'Empire romain, mais c'est quelqu'un qui avait un bon poste. Vous comprenez pourquoi Zachée était quelqu'un qui était riche. C'était des gens, excusez-moi, qui s'en mettaient plein les poches. Et quand Jésus passe, il dit, suis-moi, il laisse tout. Est-ce qu'il va manquer de quelque chose? Non. Mais il a mis, préféré, suivre Jésus en premier. Et parfois, j'aimerais vous dire que suivre Jésus, c'est faire des choix qui nous amènent à des sacrifices. Je répète. Suivre Jésus, ça nous amène à faire des sacrifices. Il y a des gens qui disent, quand je suis chrétien, je veux jouer sur tous les tableaux. Mais il y a des fois où le Seigneur dit, pour me suivre, il va falloir que tu renonces. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce. C'est fort comme mot. J'aimerais vous dire que le Seigneur ne va pas tout le temps vous amener à quitter votre pays, mais il y a des renoncements. Et le monde, le diable, notre chair, etc., va nous amener à faire des choix. Il va falloir renoncer à certaines choses. Vous avez remarqué que quand on ne renonce pas à certaines choses qui nous prennent beaucoup de temps, qui nous accaparent, ça nous empêche de servir Dieu correctement. Hello ? Si ? Et il y a des moments où le Seigneur dit, pour moi, est-ce que tu es prêt à renoncer à ça? Alors bien sûr, quand on suit Jésus, c'est beaucoup plus passionnant que d'être footballeur au PSG. Hein. Suivre Jésus, c'est en réalité, on perd beaucoup, mais on récupère beaucoup plus après. Vous savez, quand Pierre a suivi Jésus, il a laissé son job, il a laissé ses barques, il a laissé son père, Zébédée, non, bah, pas Zébédée, Jonas, fils de Jonas, c'est Jacques et Jean qui ont laissé Zébédée, leur père. Il a laissé ses parents, il a laissé sa famille derrière, et la Bible dit qu'il a laissé aussi ses ouvriers pour suivre Jésus. Et à un moment donné, ils se sont arrêtés en disant, mais Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qui va devenir de nous? Jésus dit, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, son travail, on pourrait mettre plein de choses. Et ici-bas, ne reçoivent ici-bas le centuple, ne reçoivent bien plus ici-bas, et dans la vie éternelle, ben, des biens incroyables, mais il rajoute aussi avec des persécutions. Vous savez pourquoi avec des persécutions? Parce que si vous voulez suivre Jésus pieusement, vous allez être persécuté. Parce que quand on suit Jésus pieusement, Jésus, il est à l'encontre de la société souvent, il est à l'encontre de ce que les gens pensent. Et parfois, le Seigneur va vous amener à faire des choix qui ne sont pas en accord avec votre famille, qui n'est pas avec le Seigneur. Suivre Jésus, c'est parfois être montré du doigt dans la société, dans votre travail, là où vous habitez. Suivre Jésus, c'est aussi faire des choses incroyables et être la cible de l'adversaire. Vous êtes d'accord avec ça? Pour vous arrêter. C'est pour ça que Jésus dit, oui, vous allez avoir au centuple, vous allez obtenir des frères, des pères, des mères, en plus de tout ce que vous avez perdu avant. Et la vie éternelle, et avec la vie éternelle, des biens éternels, mais avec des persécutions. Et c'est Paul qui dit à Timothée, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et la persécution, ce n'est pas toujours quelqu'un qui va nous menacer de mort, ce n'est pas toujours quelqu'un qui va venir nous lapider, mais ça peut être par toutes sortes de pressions de l'adversaire et des gens parce que nous allons à contre-courant. Nous ne pensons pas comme eux. Lorsque Pierre parle aux chrétiens, il dit « Ne soyez pas étonnés comme une fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous, réjouissez-vous. Parce qu'un chrétien sur qui repose le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a et qui vivra la persécution, le rejet. Pourquoi? Parce qu'au mieux de dire comme tout le monde, comme « Amen », vous allez dire « Non, là je ne dis pas « Amen ». Je me souviens dans mon travail, souvent, parce que je dis ça parce que maintenant je suis pasteur, alors je suis plutôt avec des gens qui sont plus ou moins d'accord avec moi, mais dans le milieu du travail, si on veut être intègre, il y a des moments où c'est dur. Hein. Et ceux qui disent « Seigneur, je veux te suivre », ils risquent quelques persécutions, mais une chose est sûre, c'est que Jésus dit « Celui qui me suivra, il aura la lumière de la vie, il obtiendra beaucoup plus, il faut juste être patient ». Il faut juste laisser Dieu prendre les choses en main. Vous savez, je disais à des jeunes il y a pas longtemps, je dis, vous savez, quand vous avez choisi Jésus, vous pouvez être en bas de la liste. En bas, du, vous savez, du, de la pile de la promotion dans le bureau de votre patron. Tout en bas. Mais dans la nuit, il y a une femme de ménage qui vient, elle passe l'aspirateur, elle donne un coup de coude dans le paquet de papier, elle tombe tout, elle remet tout et votre dossier, il passe tout en haut. Ni le patron ne le sait, ni la femme de ménage le sait, mais Dieu le sait. Parce que Dieu, lui, il est à la manœuvre. Et vous savez, toutes les fois, on essaie de contrôler, c'est à ce moment-là que Dieu dit « Ok, vas-y ». Vous n'avez pas remarqué ça? Et toutes les fois où on le laisse contrôler, ben c'est difficile, on est perturbé, on peut passer. Mais Dieu est déjà en train de travailler pour vous. Il est déjà en train de faire changer les choses. Alléluia. Suivre Jésus, mes amis, on ne peut pas dire l'évangile, si tu es un bon chrétien, si tu suis Jésus, tout ira bien, ton travail, tout ira bien partout, tu seras le meilleur, tu seras aimé, tu seras... Non, ce n'est pas biblique de dire ça, c'est plutôt même le contraire. Ce n'est pas tomber dans un évangile où, ah, on est chrétien, on va être des pauvres filles malheureux. Mais c'est de dire, parce que tu as l'Esprit de Dieu, parce que tu suis Jésus de près, tu vivras les mêmes choses que lui. Et je vous rappelle quand même que Jésus, c'était extraordinaire. Les gens venaient l'écouter avec plaisir. Dès qu'il touchait un malade, le malade était guéri. Dès qu'il donnait à manger, il prenait cinq pains et deux poissons, il était capable de nourrir des foules. C'était formidable de suivre Jésus. Mais je vous pose une question. À cause de ça, Jésus était-il aimé? Était-il toujours... Qu'est-ce qui se passe? Il y a une force qui agit dans le monde. C'est la force du monde, la force du péché, la force diabolique, et qui s'était liguée contre Jésus. Et Jésus dit, mais si quelqu'un veut être mon disciple, il sera comme moi, il sera comme son maître. Si tu veux marcher proche de Jésus, c'est la chose la plus extraordinaire que je te souhaite, n'est-ce pas? Parce que finalement, c'est là que vous allez être véritablement heureux. Mais ne croyez pas, et vous le savez, puisque si vous lisez un peu la Bible, vous allez être d'accord avec moi, que ce sera chose facile, non. Mais Jésus dit, vous êtes des flambeaux qui ne brillaient pas dans un endroit déjà éclairé. Vous êtes des flambeaux qui brillait dans la nuit. Amen. C'est ce que vous êtes. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêt à suivre Jésus jusqu'au bout? Regardez 19, 21, toujours dans Matthieu. Je ne suis pas un prophète de malheur en vous disant ça. Hein, le jeune homme riche. Je suis bien né. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va d'abord, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ce jeune homme a entendu ça? Il n'a pas pu se résoudre à renoncer à sa richesse. Dans le monde dans lequel nous vivons, je pense que beaucoup de choses sont obsolètes. Nous allons laisser tout ce que nous avons, le monde que vous voyez va disparaître. Il y a beaucoup de choses en réalité auxquelles on nous sommes attachés, mais qui n'ont finalement aucune valeur. Je vois, on est attiré par... j'ai aidé mon fils à avoir acheté sa voiture. Donc, je suis allé au garage Citroën avec des voitures. Et en plus, les Citroën, les DS, les Cactus, ça me plaît, ces voitures-là. Ça, c'est un truc entre nous. Si vous voulez m'acheter une voiture, achetez-moi. Oh non, machin. Je suis fan je n'ai pas toujours été fan, mais là, les derniers modèles chez Citroën, je trouve ça... Et je suis rentré dedans. Et ça sent bon, le neuf. Ma voiture à moi, elle a 13 ans, elle va aller sur 14 ans. Ok. Mais on sent qu'on est attiré. Mais regardez-moi, elle marche bien, ma voiture. Et j'ai appelé le garagiste parce qu'elle a quelques petits ratés. Il me dit combien t'as de kilomètres? Un garagiste qui a au moins 50 ans, vous connaissez ces Stu, hein, tu connais, qui a au moins 50 ans, si c'est pas plus, de mécanique. Et il me dit, ah ben, 200 000, ben, elle est à peine au rodage, il me dit au téléphone. À peine au rodage, je n'ai juste allé Citroën avec des voitures toutes neuves. Ma voiture, elle a 200 000 km, elle est 2003. Il me dit, mais elle est à peine au rodage. Mais c'est lui qui a raison. Pourquoi? Parce que c'est l'obsolescence des choses aujourd'hui. On veut toujours posséder mieux, machin. Alors que j'ai une voiture qui fonctionne bien, qui ne consomme pas trop. C'est vrai, elle ne jette rien, mais elle ne me coûte rien. Je n'ai pas de crédit. Et quoi? J'ai dit, mais en fait, c'est vrai, Seigneur. Et des fois, j'ai mon téléphone. Je dis, mais j'ai un téléphone Samsung A5 première génération. Ah, je dis, ah, quand même, l'iPhone 7. Hein, c'est pas vrai? Mais après, quand vous regardez le prix, vous dites, mais qui c'est le pigeon dans l'histoire là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mettre 1000 euros, 1000 balles pour acheter un téléphone, alors qu'en réalité, il fait presque aussi... Vous savez, pas énormément de différence. Non, 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 mais je vous assure. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous savez, maintenant, il y a, on peut écouter, je suis abonné à iTunes, donc j'ai un abonnement à iTunes. Maintenant, il y a une app où je récupère tous mes, je peux écouter tous mes morceaux à iTunes. Et comme je paye tous les mois un abonnement, je peux écouter tous les morceaux qu'il y a sur iTunes sans me payer. Formidable. Et quand là, je dis, des fois, je suis là, je regarde, je dis, ah, je changerais bien de téléphone parce qu'il y a quand même deux, trois petits trucs. Et puis après, je dis, mais non, Seigneur. Et je sens que je prie, je dis Seigneur, qu'est-ce que... Puis Seigneur me dit, mais non, pour l'instant, contente-toi de ce que tu as. Il y a tellement de choses comme ça, mes amis. Et je veux vous dire une chose, avec ce qui se passe en ce moment, l'insécurité qu'il y a, la France, je ne sais pas si elle va se redresser, enfin, toujours est-il qu'on sent quand même dans l'atmosphère que le monde qu'il y a, il n'y a pas beaucoup d'espérance. J'ai lu un reportage qui disait qu'avant, au moment de la crise, dans 29, aux États-Unis, les gens, c'était la misère, mais les gens... C'était mis au travail parce qu'ils avaient de l'espoir et ils savaient que ça allait changer. Et un grand spécialiste a dit aujourd'hui aux États-Unis, ça n'existe plus. Parce que l'argent, elle a été accaparée par quelques-uns et que les plus pauvres savent que tout ce qu'ils peuvent, c'est retrouver un peu de travail, mais ils ne pourront pas retrouver la prospérité qu'il y a eu après-guerre aux États-Unis, où la richesse était partagée. Et il dit, il y a du désespoir chez les gens. Mes amis, les richesses ici-bas... Peut-être un jour, le Seigneur va vous demander de les donner. C'est possible. Juste pour le suivre. Amen. Et marcher par la foi. Parce que c'est bien de lire les histoires de la Bible. Waouh ! On est tous d'accord, on les lit. Mais quand on y est et qu'il faut les vivre... Vous savez que j'ai déjà eu donné ce témoignage, mais je vous donne quelque chose que j'ai vécu l'année dernière. J'ai commencé à vivre par la foi. J'ai laissé le salaire au pasteur qui était là et je ne savais pas de quoi j'allais vivre une semaine sur l'autre. Et là, je me suis dit, mais purée, Bertrand, tu as prêché sur ça, tu connais ça, mais là, tu y es, quoi. Et là, je me dis, maintenant, c'est plus de la théorie, oui, fais confiance à Dieu, tu verras. C'est waouh! Vous savez, c'est comme dire à une personne qui est mariée et qui n'a pas d'enfant, mais non, mais vas-y, prie, le Seigneur va te donner, machin. Mais quand ça t'arrive à toi, parce que dans ta tête, tu dis, je vais me marier, puis au bout d'un an, on va avoir un enfant, mais qu'au bout de 5-6 ans, avec toutes les tentatives, tu n'as pas d'enfant, là, tu dis, difficile de ne pas murmurer, de ne pas se plaindre, de faire confiance à Dieu, n'est-ce pas? C'est du vécu, ça. Mes amis, des fois, le Seigneur va t'amener au vécu pour ta propre vie. Comment toi, tu vas vivre les choses? Est-ce que tu es prêt à renoncer à certaines choses juste pour me suivre, pour faire pleinement ma volonté? Dieu ne nous met pas à l'épreuve en disant « je veux que tu me donnes ton argent, voilà parce que ça me plaît, ça me passe par la tête ». C'est parce que ça t'empêche de me servir pleinement. Ça t'empêche d'être pleinement à moi. Ça t'empêche vraiment de faire tout ce que j'aimerais faire dans ta vie. Peut-être qu'il y a des jeunes, des fois, ils ont dit « je vais faire 5-6 ans d'études ». Ils ont fait 6 ans d'études, ils ont un super boulot, enfin un super diplôme. Et puis ils se sentent dans leur cœur l'appel pour être missionnaire à un pays là-bas, à s'occuper des petits-enfants et à gagner juste le SMIC et avoir une petite case avec, on lui a quand même mis une petite douche. Et là, il y a une pression forte parce qu'elle dit « quoi je... ?» Tu dois laisser tout ça au pied du Seigneur. Hier, il y a une jeune fille qui est venue me voir, j'étais à Fribourg, je vais vous parler. Elle me dit, voilà, j'ai un dilemme, mes parents sont chrétiens. Ah, je dis, bon oui, ils doivent comprendre certaines choses déjà. Elle dit, mes parents, pas vraiment, parce que moi je sens l'appel pour aller à l'école biblique. Je vais aller au Canada. Mais pasteur, j'ai un problème. Mes parents, ça fait des années qu'ils m'encouragent dans les études, qu'ils payent mes études, ils n'ont qu'une envie, c'est que maintenant que j'ai mon diplôme, j'aille travailler. Je dis, comment je vais faire pour leur annoncer que... Mais je dis, mais ton papa, il est chrétien. Elle m'a dit, oui, mais... J'ai dit, écoute, je lui ai dit, si c'est les portes qui s'ouvrent pour toi, si tu sens dans ton cœur que tu as prié que c'est la volonté de Dieu, vas-y. Parce que Dieu ne va pas te décourager d'aller te former. La seule chose qu'il peut dire, c'est peut-être pas dans cette école-là, peut-être pas de cette manière-là, peut-être pas au Canada, mais vas-y. Et puis, fais confiance à Dieu, prends soin de toi, de tes parents. Mais vous imaginez la pression sur cette fille? Qu'est-ce que vous auriez dit? Ah non, il faut être sage, non, non, il faut que tu aies gagné des sous, parce que faut que tu rentabilises. Non, fais la volonté de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été ingénieurs. Moi, j'ai connu des pasteurs, ils étaient ingénieurs, ils gagnaient 6000 euros par mois. J'ai un pasteur un jour qui m'a dit, j'ai gagné à l'époque, hein, enfin, aujourd'hui c'était en francs à l'époque, il gagnait super bien sa vie, il a vu son salaire divisé par 5 quand il est rentré dans le ministère. De là où on avait un niveau de vie avec ma femme, on est rentré dans le ministère, vous s'est retrouvé dans un appartement HLM. Mais il dit, j'ai jamais regretté un instant d'avoir fait ce choix-là. Amen. Soyez là où Dieu vous veut, pas où les hommes veulent vous voir. Le ministère que j'avais. Je ne suis pas riche aujourd'hui. Je vis en HLM. J'ai une voiture de 13 ans. Mais finalement, quand je regarde, je n'envie absolument pas les riches. Je n'envie pas. Je suis heureux d'être à ma place. Voilà, heureux d'être à ma place. Je ne dis pas que c'est plus facile, c'est simplement, je sais que je suis là. Et je veux encore faire la volonté de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Et ne pas choisir ce qui est facile. Je me rappelle du pasteur Ove Falk, je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler du pasteur Ove Falk. Il avait 70 ans, Dieu lui dit, tu vas partir à Madagascar. 70 ans, il est en retraite, c'est bon. Il était tranquillement, il avait fait 50 ans de ministère. Mais dans le fond de son cœur, il y a ça qui a résonné. Ben vous savez quoi, il a pris ses clics et ses claques. Il est parti à 70 ans et il est resté 20 ans. Il est mort à plus de 90 ans. Il a juste fait. Et quand vous l'écoutiez, il était heureux. Hein, plutôt que de finir en maison de retraite. Je ne dis pas que maison de retraite, des fois, vous pouvez être en maison de retraite et faire un travail formidable de témoignage. Hein. Mais pour lui, son appel, c'était d'aller là-bas. Amen. Voyons quelques obstacles. Regardez, Jean chapitre 20. C'est Pierre qui dit à Jésus... en voyant Jean, verset 21, et celui-ci, Seigneur, que lui rêvera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Regardez-moi bien. Une des choses qui peut faire obstacle à suivre Jésus, c'est de vous comparer aux autres. Vous savez, quand on voit sur Internet, moi, le premier, je vois des pasteurs qui ont du succès, qui font, qui sont sur la télé, tout ça. Des fois, je dis, purée, je suis un pasteur raté, moi. Je sais pas comment ils font, etc. Puis des fois, on est tenté à vouloir les imiter. Puis à s'occuper de... Ouais, et pendant qu'on est en train de s'occuper, Dieu dit, mais moi, je voudrais m'occuper de toi. Oui, mais moi, j'aimerais ressembler à lui, là, j'aimerais... Vous êtes unique, je suis unique. Amen. Et on n'imagine pas un instant que des fois des pasteurs qui sont au devant de la scène, toutes les pressions, tous les combats, toutes les critiques, il y a même des sites internet qui parfois sont faits exprès contre vous avec des diffamations de toutes sortes. Et des fois on envie ces gens-là, mais si à un instant on prendrait leur place, je ne suis même pas sûr qu'on tiendrait quelques secondes. Parce que Dieu les a équipés pour être à leur place. Vous ne pouvez pas être à la place de quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un à côté de vous, que ce soit « Ah, moi j'aimerais bien chanter comme elle, j'aimerais bien, regarde, elle vend des CD, etc. Elle est connue, elle est aimée quand on la voit quelque part, hein, quand elle rentre dans une pièce. Ah, salut, c'est toi. » Mais Dieu dit « Toi, suis-moi, que t'importe. » Et si j'ai envie qu'elle soit connue, que c'est la Céline Dion évangélique, que t'importe, c'est pas ton problème. N'est-ce pas? Ah ouais, mais moi, je trouve qu'elle est bien, ce qu'elle fait, j'aimerais... Toi, suis-moi. Le fils de David Wilkerson, il était venu, on avait fait une conférence avec David et Gary, je ne sais pas si vous connaissez Gary Wilkerson. Et il nous avait expliqué, quand dans son ministère, à un moment donné, aux États-Unis, c'est plus... Nous, aux États-Unis, quand il y a quelque chose qui marche, les Américains, ils se déplacent pour voir comment c'est. Hein. C'est plus dans leur culture, encore plus qu'en France. Quelque chose marche quelque part aux États-Unis, il y a plein de gens, des pasteurs qui viennent, ils prennent l'avion, ils vont voir, ils vont passer une semaine, 15 jours, voir comment c'est, ils vont essayer de... Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, en France, on est un peu plus... tout ça, ça marche, mais... Ouais, c'est suspect, sûrement quelque chose derrière... Vous savez comment on est, hein, nous, les Français. Eux, ils sont là, super enthousiastes, et ils reviennent chez eux et ils refont les mêmes choses. Et ce pasteur Gary Wilkerson, qui est le fils de David Wilkerson, et expliquait comment ça pesait, David Wilkerson. Je ne sais pas si vous savez, aux États-Unis, c'est lui qui a fait la croix et le poignard. C'était un homme hyper respecté, connu partout. Gary Wilkerson, personne ne le connaît, ou très peu. Et la pression de son père, moi j'imagine un peu le fils là, dans le ministère, avec un papa, comme si vous seriez le fils de Billy Graham, quoi. C'est chaud, hein? Et il est allé partout et il prenait des idées, il revenait à l'église, il disait, oh, on va faire ça, il faisait ça, ouais. Après, la loi parfaite. À un moment donné, il explique dans, quand il prêche, que là, les frères de son conseil, l'église qu'il aimait bien, ils ont tapé sur l'épaule en disant, pasteur, on n'arrive plus à vous suivre là. Arrêtez, on vous aime comme vous êtes. Vous êtes comme vous êtes, pas besoin d'être... Et là, il a compris qu'il ne devait plus chercher à essayer de ressembler à l'église d'un tel, un machin. Il fallait juste qu'il suive Jésus. Et il a expliqué, j'ai juste mis à chercher ce que Jésus voulait pour moi. Et si ça marche pour quelqu'un d'autre, c'était super, mais Dieu avait quelque chose pour moi, dans ma propre vie. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui parfois sont arrêtés à suivre Jésus parce qu'ils se comparent aux autres? Ou parce qu'ils s'occupent aussi des affaires des autres? Parce qu'ils ont une excuse, bah, c'est mon petit frère, c'est ma petite sœur, mais tant que je ne peux pas servir Dieu, tant que je n'ai pas enterré mon père, tant que ma mère est malade. Mais vous savez quoi, il y a des moments où Dieu va vous dire, suis-moi, je vais m'occuper de tes parents. Mais ça, humainement, mes amis, c'est en marchant par la foi. Parce que ça ne rentre pas dans notre crâne, on pense qu'on maîtrise, on pense que tant qu'on est, si on est là, on est indispensable, n'est-ce pas? Mais il y a des fois où Dieu dit, je vais aller plus loin et ça permettra de mieux bénir tes parents. Parce que si tu continues à t'acharner en voulant prendre toute la place, je ne pourrai pas agir. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour ça que ce n'est pas une décision que quelqu'un d'autre peut prendre à votre place, c'est si vous marchez proche de Jésus, derrière lui, dans la communion avec lui. Il y a des décisions pas faciles à prendre. Mes amis, il faut les prendre. Amen. Regardez encore un autre obstacle, si vous voulez, dans Marc chapitre 9, verset 38. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Un autre obstacle, mes amis, c'est quand nous voulons entrer dans un moule. Quand dans notre esprit, on pense que servir Dieu, ça sera de cette manière-là, en suivant telle voie, comme nos pères ont fait, comme toujours fait. Je ne parle pas ici de la parole de Dieu, hein, parce que je ne vais pas le temps, je vais pas aborder, mais je pourrais vous parler du fait que la Bible nous enseigne à suivre la doctrine exactement. Mais là, je parle de direction de vie. Ici, vous imaginez Jean qui dit, ben, on a arrêté ces gens-là, ils ne nous suivent pas. Mais c'est pas, tu ne suis pas des hommes, tu suis Jésus. Est-ce que vous me suivez? Jésus dit, il n'y a personne qui est faisant un miracle en mon nom, parce que c'est ce que ces gens faisaient, ils priaient pour les gens au nom de Jésus, il y avait des miracles, va après blasphémer contre moi. Il a dit, laissez-les. Mais nous, dans notre esprit, parfois, ce qui peut faire obstacle, c'est qu'on pense qu'on va faire comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on va, voilà, Seigneur, ouais, mais moi, je crois que je dois aller à l'école biblique 3 ans, à tel endroit, puis après, je dois faire... Je suis une fille, alors moi, Seigneur, ce sera les champs, ce sera la pouponnière et la cuisine. Vous voyez? Ce sera comme ma mère a fait, comme mon père a fait. Ça sera comme la tradition. Écoutez-moi bien, à un moment donné, Jésus a confronté aux pharisiens qui disent « Eh Seigneur, comment ça se fait que tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens ? Ils mangent sans se laver les mains. » Et ils avaient plein d'autres préceptes, comme ça dit Jésus, qui ne sont pas dans la Bible. Mais des préceptes dans les mouvements, dans nos... Et j'aimerais vous dire que moi aussi, j'aime l'ordre. Parfois, j'ai du mal à sortir du cadre. Mais si vous, dans votre appel, Dieu vous appelle à sortir du cadre, non pas de la parole de Dieu, mais de la tradition, n'ayez aucune crainte. Mais attention, c'est pas facile. C'est pas facile de quitter son père et sa mère, parce que quand on dit quitter son père et sa mère, c'est parfois quitter la tradition, la pression de la famille. Je ne dis pas que tout le monde va être appelé à faire ça, mais je crois que quelque part, à chaque fois qu'on répond à l'appel de Dieu, il y a toujours un au revoir qu'on dit à quelqu'un. Si vous voulez servir Dieu, vous verrez beaucoup moins vos parents qu'avant. Alors qu'ils auraient peut-être vu, oh, bah, tu vas te marier, on va trouver un appartement dans la ville à côté. S'il faut même, on vivra dans la même maison. Quand ça, on verra les petits-enfants, on verra nos petits-enfants tous les week-ends. Les gens, des fois, les gens vous font des plans pour votre vie. Ils vous disent déjà comment tu dois. Elle sera blanche, elle sera noire, elle sera chrétienne, spirituelle, avec un travail. Elle dira toujours amen à sa belle-mère. Elle sera comme ça. Et quand tu voulais ramener quelqu'un, une femme avec du caractère, qui dit non à belle-mère, qui ne s'entend pas spécialement, qui n'a pas trop envie d'aller faire des mamours, et qui dit, bah, écoute, et puis chérie, on ne va pas passer tous les week-ends chez tes parents. Et là, vous vous rendez compte que les parents, ils disent « Ah oui, mais c'est pas ce qu'on avait prévu pour toi, là. » Est-ce que vous me suivez? À un moment donné, vous ne me suivez pas, moi. Vous ne suivez pas un mouvement, vous ne suivez pas une... Vous suivez Jésus, et c'est pas négociable. La première personne que vous devez, à qui vous devez, c'est Jésus. Et souvent derrière, les gens seront d'accord, parce que souvent les décisions que Jésus va vous demander ne rentrent pas en conflit spécialement, mais il y a des moments où oui, ça entrera en conflit. Et là, il faudra bien peser dans la balance qui vous allez suivre. Et il va falloir suivre Jésus. On peut essayer de vous en empêcher, mais Jésus viendra en disant « Non, laisse. » Amen. Vous pouvez être dans des traditions. « Suis-moi, dit Jésus. » Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Oh, ça va être super, ça va être... Oui, tu marcheras. Celui qui marche, ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Parce que quand on suit Jésus, c'est la lumière qui brille autour de nous. Et la lumière, c'est ce que n'aiment pas les ténèbres. Mais si à un moment donné, vous subissez la pression, vous dites, oui, laisse-moi d'abord aller prendre soin congé de ceux de ma famille, laisse-moi d'abord enterrer mon père, vous risquez aujourd'hui d'arriver à 70 ans pour enterrer votre père, parce que je vais vous dire, dans le passé, on faisait des héritages, vous aviez encore 40 ans quand vous héritez. Mais aujourd'hui, je vois mes parents, ils ont hérité quand ils étaient déjà en retraite, ils avaient déjà une maison. Mes parents, moi, ils ne sont pas prêts de mourir, et je ne veux pas qu'ils meurent. Mais quand j'aurai l'héritage de mes parents, je serai déjà en retraite. Alors, vous allez servir Dieu quand? C'est quand on est jeune qu'il faut servir Dieu. Déjà, quand on se marie, il faut quitter père et mère. Hein. Certains l'ont pas compris, quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Alors, vous imaginez quand on veut suivre Jésus. Amen, est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout? Gloire à Dieu. Je vais terminer. J'ai d'autres textes, mais d'autres obstacles, mais je vais terminer avec un dernier. Dans Matthieu 26, 58... Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas qui ce que cela veut dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à tous ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, mais cette fois-ci avec serment. Je le jure, c'est pas dit comme ça, mais je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu étais aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole de Jésus, que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Vous avez remarqué la progression? La première fois, c'est la servante tout seule. La deuxième fois, elle dit ça autour, et après c'est tout le monde qui vient. Et tout le monde avec des arguments. Ben, tu ne peux pas nier le contraire, ton accent. Et là, vous imaginez que Pierre, il aurait dit, de la première fois, il aurait dû dire qu'il connaît Jésus. Et il a fallu arriver la troisième fois où là, il va dans des serments, dans des imprécations. C'est pathétique quand on sait ça. Mais j'aimerais vous dire, quand on suit Jésus de loin, on n'est pas meilleur que Pierre. Être à l'église évangélique, un dimanche après-midi, écouter le pasteur Colpier, faire des petits chants avec Audrey, profitez-en, c'est super, super bon pour notre foi. Là, on se fait du bien. On n'est pas au milieu hostile. Hein, personne m'en veut, là, cet après-midi, non, vous m'aimez tous. Tout le monde est plus ou moins d'accord, je vois des aides, même si, voilà, je vous pousse un peu à dire « des amen », alors on dit « bon, oui, frère, vous avez raison ». Non, j'exagère, bien sûr. Bien sûr que j'exagère. Mais ce que je veux dire par là, ici, c'est... On peut suivre Jésus de loin en venant le dimanche après-midi. On peut suivre Jésus de loin. Dans certains pays, aller à une réunion le dimanche après-midi, c'est risquer sa vie. Hein. C'est de se faire embarquer en sortant d'ici. Ceux qui suivent Jésus de loin ne vont pas à ces réunions-là. Ils n'y vont plus depuis longtemps. Mais j'aimerais vous dire ceci. Si on suit Jésus de loin, le jour où il y aura une persécution, où il y aura une prise de position, eh bien, on aura honte. Et Jésus dit, « Celui qui aura honte de moi, Je dis, moi je reste fidèle, dit Jésus. Même si tu es infidèle, si tu es infidèle, moi je reste fidèle. Mais sache une chose, si tu as honte de moi devant les hommes, quand je reviendrai devant mon Père, j'aurai honte de toi. Je ne te confesserai pas. Mais si tu n'as pas eu honte de moi, quand mon Père viendra devant tous les anges, et pour l'éternité et les siècles des siècles, je confesserai ton nom. Je dirai, celui-là, je le connais. Comprenez? Et suivre Jésus de loin, c'est quoi? C'est de se dire, quand on est chrétien, on a vraiment besoin de s'approcher de Dieu. Parce qu'il y a des temps difficiles. Je dirais même, je vous fais une confession, plus vous allez mûrir et vieillir, plus parfois, ce sera difficile avec votre chair. Vous savez ce que Jésus dit juste là, dans ce texte, juste avant, il dit à Pierre, il dit, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture, tu allais là où tu voulais, mais il dit, quand tu seras vieux, le Saint-Esprit viendra, il te mettra lui-même une ceinture autour des reins et il te mènera là où tu ne voudras pas aller. Moi, je pensais, Seigneur, qu'être chrétien, c'était toujours aller là où on voulait aller. Dis seulement quand tu auras un peu compris. Et ce que je crois, c'est que quand on est jeune chrétien, le Seigneur dit, tu es encore jeune, tu es encore petit. Je ne te demande pas encore de faire la vaisselle. Je ne te demande pas encore d'aller nettoyer derrière quelqu'un. Je ne te demande pas encore d'aller donner un coup de main à nettoyer, à faire le ménage, à faire tout ça. Je ne te demande pas encore de participer à tout ça. Je ne te demande pas grand-chose. Mais vous avez remarqué que des fois, le réveil, il est dur quand à l'adolescente, à ce coup, maman, elle se lève un matin en disant, à partir de la semaine prochaine, alors attention, hein, loulou, hein, à partir de lundi, voilà le planning de la vaisselle. Et là, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Je suis réveillé, c'est un cauchemar. Non, non, tu t'es bien réveillé, les choses sont en train de changer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je n'avais pas envie de faire la vaisselle. Vous aimez faire la vaisselle? Moi, je n'aime pas. Non. Jésus dit, prends sur toi mon joug et reçois mes instructions. Il dit, mais sois encouragé, mon joug est doux et mon fardeau léger. Mais Jésus dit, si quelqu'un me suit, il sera mon disciple, il marchera là où j'ai marché, il ira là où j'irai, et s'ils vous ont rejeté, s'ils vous ont critiqué, ils vous critiqueront, et si on vous frappe sur la joue droite, tu tendras la joue gauche, pas tout de suite, hein, quand même. Ok, là, qu'est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mes amis, c'est notre chair qui ne veut pas y aller, notre esprit, lui, il est disposé. Mais quand vous allez comprendre ça, vous allez voir les plus belles victoires de votre vie. Car vous vous rendrez compte à ce moment-là que de suivre Jésus, c'est la plus belle des choses qui peuvent vous arriver. Dites-moi, est-ce que les gens qui ont plein d'argent, qui ont tout, vous les voyez plus heureux que vous? Non. D'ailleurs, un aspect verni, vous savez? Non. Je dis souvent que je suis plus heureux que la plupart des gens qui sont ici. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas plus d'argent. J'ai simplement... Jésus dans ma vie, je le suis. Amen. Il est avec moi et je veux marcher dans ses voies. Et votre défi, et je vais terminer, mon défi, c'est de suivre Jésus de près. D'être très proche de lui. Pour pouvoir accomplir sa volonté. Et quand ça sera difficile, vous serez comme le brebis avec le bon berger, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si je le suis, il me conduit vers les eaux paisibles. Si je le suis, je suis dans les verts pâturages. Et si je le suis et que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, vous savez quoi? Son bâton et sa houlette me rassurent. Mais je vous pose une question. Dans l'ombre de la vallée de la mort, pour voir un bâton et une houlette, il faut être loin ou il faut être près? Il faut être près. Plus tu t'approcheras de lui, plus les difficultés peut-être seront là, mais plus tu seras rassuré. Et je termine vraiment parce que je voulais dire ça. Hier, j'ai regardé une émission, une animalière. Vous aimez bien les animations animalières? Moi, je trouve que c'est super, les animations animalières. Des fois, pour apprendre, c'était sur un pingouin, qui est des petits bébés pingouins. Qui aime regarder ce genre d'émission? Je suis tout seul, non? Oh ouais, tu vas tout seul. Et là, c'est super, c'est papa, maman, pingouin et le petit pingouin. Et à un moment donné, le petit pingouin, il s'en va, la mère, elle suit pas loin, il tombe dans un trou et il a failli être perdu. Alors, la mère, elle lui fait la leçon. Mais lui, il n'a pas compris. Il s'en va et à un moment donné, il s'en va et le froid arrive, le blizzard arrive et des vents à 120 km/h et jusqu'à moins 50 ressentis. Et là, le petit, il a juste le temps de rentrer. Il était déjà couvert de givre. Sa mère finit par le trouver. Il se met juste en dessous et il est sauvé. Vous savez quoi? Sa mère lui a mis un petit coup de pince. Elle lui a dit, et ça lui a servi de leçon. Un jour, à un moment donné, j'ai vu ça dans le reportage, il y a un oiseau, un gros oiseau qui a l'habitude de manger les petits pingouins. Il arrive, il commence à l'attaquer. Sa mère arrive. Et vous savez ce qui se passe? C'est que sa mère se met devant le gros oiseau et le petit garçon, il se cache derrière. Et on voit un jeu de cache-cache. Je vous assure que c'est vrai. Un jeu de cache-cache avec le petit. Pendant que sa mère tourne, le petit tourne et l'oiseau ne le voit pas. Et à un moment donné, il s'en va. Il a compris que pour être sauvé, il fallait qu'il soit proche. Non, mes amis, je ne vous prends pas pour des pingouins. Mais si on a un berger, c'est qu'il ne faut pas s'éloigner de lui. Amen. Suivre Jésus. Est-ce qu'on prie ensemble? Vous voulez bien? Amen.